Le sacrifice de Jésus est tellement incroyable que depuis toujours, les hommes ont eu du mal à y croire. Dans tous les temps, il a été difficile de concevoir ce qu'était vraiment le sacrifice de Jésus pour nous. Et en fait, c'était ainsi dès le départ. Vous vous en souvenez, Jésus avait parlé à ses disciples et le texte nous dit qu'il avait parlé directement pour leur dire qu'il allait aller à Jérusalem, qu'il allait souffrir de la part des principaux d'Israël, qu'il allait finalement être mis à mort. Et vous vous souvenez de la réaction de Pierre qui est rapportée par les évangiles. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Pierre était le premier à ne pas pouvoir croire que Jésus devait mourir pour lui aussi. Il avait, pour Jésus d'ailleurs, un agenda tout à fait différent. Et dans la suite des temps, il a été aussi très difficile pour les hommes de croire ce qu'était vraiment le sacrifice de Jésus. Ceux qui ont cru ont d'ailleurs eu de la difficulté à le concevoir tel que les Écritures le présentent. Beaucoup ont vu dans le sacrifice de Jésus ce qu'on appelle une victime propitiatoire, c'est-à-dire que Dieu est terriblement fâché avec l'humanité. Et il faut absolument faire un sacrifice pour calmer Dieu et que Dieu nous soit de nouveau propice. C'est une conception très païenne du sacrifice. D'autres ont vu dans la mort de Jésus un meurtre. Jésus était tellement bon. Jésus était tellement bon que les hommes ne l'ont pas supporté, alors ils l'ont mis à mort pour qu'il arrête de les déranger. D'autres ont vu dans la mort de Jésus un exemple. Jésus est pour nous un exemple dans sa vie, dans sa mort, disent-ils. Et ainsi nous sommes invités à le suivre dans la mort. Il nous a donné un exemple. Tous ces éléments trahissent en réalité la profondeur de la signification du sacrifice de Jésus pour nous. Le sacrifice de Jésus pour nous est beaucoup plus que cela. Et pourtant, tout l'Ancien Testament est chargé de ces images. De ces images même vécues au travers du temple et des sacrifices, pour essayer de faire comprendre l'importance, la profondeur de ce qu'est vraiment le sacrifice de Jésus pour nous. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, se trouve un énoncé extraordinaire de ce que Jésus a fait dans son sacrifice. Ce chapitre, en réalité, est doté d'une introduction qui commence au chapitre 52 à partir du verset 13, où il est question du serviteur souffrant. Mais déjà dans cette introduction, qui se prolonge jusque dans le chapitre 53, la question est posée. Chapitre 53, verset 1. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Déjà dans ce chapitre, il nous est annoncé que les hommes auront du mal à croire ce qui était annoncé. Croire à la parole de Dieu. Les hommes auront de la difficulté à accepter et à recevoir ce qui était annoncé concernant Jésus, le Messie. Dans cette introduction, le prophète va nous dire de la part de Dieu que ce Jésus-là dont il est question, ce serviteur qui vient de la part du Seigneur, va prendre les hommes au dépourvu. Jésus ne correspond pas à ce qu'ils attendent. Jésus ne va pas attirer leur attention comme ils auraient voulu qu'il le fasse. Jésus va les surprendre par ce qu'il est et par ce qu'il fait, surtout par ce qu'il ne fait pas. Alors que vient-il faire? C'est le reste du chapitre 53 qui nous le dit. Qu'est-ce que ce sacrifice que Jésus a fait pour nous, dont nous allons commémorer aujourd'hui la puissance en participant à ce service de Sainte-Cène. Il y a dans le chapitre 53 d'Ésaïe 7 passages qui nous rappellent très clairement ce qu'est le sacrifice de Jésus. Dans ces 7 passages, il nous est dit et répété, d'une manière ou d'une autre, ce qu'il y a au cœur du sacrifice de Jésus pour nous. Et j'aimerais ce matin rapidement survoler ces 7 passages simplement pour nous rappeler l'essentiel de ce qu'est le sacrifice de Jésus pour nous. Le premier passage se trouve dans Ésaïe au chapitre 53, au verset 4, où il est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le texte nous dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées ». Le verbe qui est employé ici, c'est le verbe « nasa ». Un verbe intéressant parce qu'il est traduit de façon différente dans les Écritures en fonction du contexte. Ici, il nous est dit que le Messie va porter nos souffrances. On va retrouver ce même verbe à la fin du chapitre, au verset 12. Mais j'aimerais regarder un passage ailleurs dans les Écritures, dans un contexte différent, pour en comprendre la largeur de ce passage. Regardez dans le livre de l'Exode au chapitre 32. Il est là question de cet événement que vous connaissez bien, où le peuple d'Israël, dans son pèlerinage dans le désert, va tomber dans l'idolâtrie. C'est l'événement du veau d'or. De retour du mont Sinaï, Moïse va intercéder pour son peuple. Et il est dit dans Exode chapitre 32, verset 32, il nous est rapporté là les paroles de Moïse. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Vous avez remarqué dans ce passage, Moïse est en train d'intercéder avec Dieu pour le peuple. Et il demande à Dieu, pardonne maintenant leurs péchés. C'est le même verbe, porte leurs péchés. Il est en train de demander à Dieu de porter les péchés du peuple. Et si, Seigneur, tu ne veux pas le faire, alors je le ferai. Et il sait que de porter les péchés conduit à la mort. Efface mon nom du livre de vie. Job lance vers Dieu le même cri. Regardez dans le livre de Job au chapitre 7. Job chapitre 7, verset 21. Que ne pardonnes-tu mon péché? Que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras, et je ne serai plus. Le texte dit ici, que ne portes-tu mon péché? Job crie à Dieu, lui demande, porte mon péché, si tu ne le portes pas, je vais mourir. Pardonne mon péché. En fait, cette prière que Job, que Moïse adresse à Dieu, Dieu va y répondre. Dieu va y répondre beaucoup plus tard, il va y répondre en Jésus-Christ. Et vous vous souvenez ce que l'apôtre Pierre explique dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 24, il est dit, en parlant de Jésus, « Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. » Ces prières de l'Ancien Testament, Dieu y a répondu. Il y a répondu en Jésus-Christ. Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. Le deuxième passage dans Ésaïe 53 qui donne l'essence même du sacrifice de Jésus se trouve au verset 5. Ésaïe 53, verset 5, où il est dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Blessé pour nos iniquités. Ses meurtrissures nous guérissent. Jésus, par son sacrifice, nous donne la guérison. Quand on pense au ministère de Jésus sur la terre et aux guérisons qu'il a accomplies, on pense souvent que c'était en fait bien facile. Jésus, après tout, était Dieu sur terre. Il lui suffisait de dire « Sois pur » et il était pur, « Sois guéri » et il était guéri. Lazare sort et le mort sort. Comme nous disent les Écritures dans le psaume 33, il parlait, la chose arrive. C'était fort simple. Mais j'aimerais lire avec vous un passage dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 8 pour découvrir une nouvelle dimension des guérisons de Jésus. Matthieu, chapitre 8, au verset 16, il est écrit ceci. Matthieu, chapitre 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Nous pensons généralement, en lisant Ésaïe, à la guérison spirituelle. Mais remarquez que Matthieu, ici, fait le lien direct entre les guérisons que Jésus accomplit et la prophétie d'Ésaïe 53, où il dit « Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies ». Autrement dit, chaque fois que Jésus accomplit une guérison, en réalité, la croix commence déjà là. Il porte nos fardeaux. Et non seulement nos fardeaux spirituels, nos péchés, mais aussi les conséquences de notre péché. Nos maladies, notre mort, chaque guérison de Jésus, chaque miracle de Jésus qui délivre du péché et des conséquences du péché, il les prend sur lui. Cette maladie qu'il guérit, il la prend sur lui et il la portera à la croix pour la détruire. Le ministère de Jésus, ce sacrifice de Jésus, est un sacrifice qui va plus loin peut-être que ce que nous avons imaginé. Il veut véritablement porter nos blessures, nos maladies, nos infirmités spirituelles et physiques. Et vous vous souvenez, les guérisons de Jésus ne passent pas inaperçues pour lui. Pensez à cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis longtemps et qui veut toucher le manteau de Jésus sans que personne ne le sache. Et elle va arriver à toucher le manteau de Jésus et elle va être guérie. Et vous vous souvenez, Jésus va réagir et va dire « Qui m'a touché ?» Une force, dit-il, est sortie de moi. Lorsque Jésus guérit, il prend sur lui nos maladies. Le troisième passage dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53, qui présente l'essence même du sacrifice de Jésus, se trouve au verset 6. Ésaïe 53, au verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce mot iniquité, c'est le mot péché, c'est le mot injustice, c'est le mot perversion qui est employé ici. C'est cela qui va retomber sur lui. Et par ce mot, nous nous retrouvons dans le contexte de la Pâque, dans le contexte du sacrifice. Nous nous retrouvons dans le contexte de tout ce qui se passait dans le temple et qui gravitait autour des sacrifices et du service des prêtres. Regardez par exemple dans le livre du Lévitique, chapitre 10. Lévitique, chapitre 10, verset 17. Il est écrit ceci. « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint ? C'est une chose très sainte et l'Éternel vous l'a donnée afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. » Le sacrificateur, c'est une image de notre grand sacrificateur. C'est la raison pour laquelle les sacrificateurs devaient manger la chair des sacrifices qui leur étaient présentés. De cette façon-là, ils portaient l'iniquité du peuple. Et en portant l'iniquité du peuple, ils permettaient à cette assemblée de recevoir le pardon et l'expiation. Manger pour porter l'iniquité du peuple. Lorsque Jésus porte notre péché, ce n'est pas un semblant, ce n'est pas un scénario, ce n'est pas un truc. Vous vous souvenez de ce que l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 21, il est dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ce n'était pas un scénario, c'était du vrai. Jésus a porté nos péchés. C'est d'ailleurs ce poids insupportable du péché qu'il a tué. Souvenez-vous, il est mort bien avant ceux qui ont été crucifiés avec lui. Le quatrième passage dans Ésaïe 53 qui nous parle de l'essence même du sacrifice de Jésus se trouve au verset 8. Ésaïe 53, verset 8, il est dit « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple ? Il a été frappé pour les péchés de mon peuple. Depuis le début de ce chapitre, les textes significatifs qui présentent le cœur même de ce que signifie le sacrifice de Jésus, ces textes nous font comprendre que le sacrifice de Jésus, c'est une substitution. Il est mort à notre place. Il a pris notre place. Il est mort à cause de nous et pour nous, de sorte que nous n'ayons pas à porter les conséquences de notre péché. Cette notion de substitution est essentielle. Et quand on y pense, c'est probablement là ce qui fait qu'il est parfois difficile de l'accepter, parce qu'on a l'impression que c'est une injustice qui doit guérir une injustice. Quand on comprend l'engagement de Jésus, l'engagement immense et colossal de Jésus pour nous sauver, nous nous sentons comme contraints, nous aussi, de nous engager envers lui, tant cet engagement est grand. Vous vous souvenez, Jésus lui-même avait dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est comme si la découverte de ce que Jésus a véritablement fait pour nous le rendait irrésistible. Et c'est peut-être là, justement, la nature de la lutte qui se vit dans le cœur de beaucoup d'hommes. Le cinquième passage dans Ésaïe 53, qui mentionne l'essence même du sacrifice de Jésus, se trouve au verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Il est dit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Il est dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ici, nous entrons dans la technique des sacrifices de l'Ancien Testament. Il s'agit en réalité ici du sacrifice que l'on appelle le sacrifice de culpabilité. Et justement, ce sacrifice-là, les sacrificateurs devaient en manger la viande. Sacrifice de culpabilité. Autrement dit, manger l'agneau pascal, ce que les Juifs faisaient à chaque célébration de la Pâque, c'est accepter que ce sacrifice de culpabilité ait été fait pour moi personnellement. Ce sacrifice, il est fait pour ma culpabilité à moi, et c'est Jésus qui l'offre, ce sacrifice. Lorsque je mange sa chair, lorsque je bois son sang au travers des symboles de la Sainte Cène, je fais en réalité la même chose. Je reconnais que Jésus a offert un sacrifice de culpabilité pour ma culpabilité. Et en le mangeant, je lui dis, « Seigneur, c'est ma culpabilité que tu portes. Merci de me donner la vie à la place. » Le sixième passage dans Ésaïe 53, c'est le verset suivant, c'est le verset 11 où il est dit, « À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. » Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Ce serviteur va justifier. Le mot qui est employé ici, nous le retrouvons dans un texte que nous connaissons bien dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 8 et au verset 14, lorsqu'il est parlé du sanctuaire qui doit être purifié. C'est la même racine qui est employée ici. De même que ce sanctuaire doit être purifié, nous devons l'être nous aussi. Élimination des péchés et élimination de la cause des péchés. C'est en réalité exactement ce que Dieu veut faire dans notre vie. Éliminer le péché et la cause de ce péché-là. Ce terme qui est employé ici, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament, vous le connaissez, avec le sens de considérer comme juste, gracié. Gracié veut dire que nous avons reçu le pardon, ayant été d'abord condamnés comme coupables. Et puis le texte nous dit qu'ils se chargent de leurs iniquités. C'est un mot différent de celui qui a été employé dans les versets précédents. Le mot qui est employé ici se trouve employé ailleurs dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, au chapitre 11 et au verset 28, par exemple, en parlant des travaux forcés, du travail dur et pénible, des corvées insupportables. C'est le même sens, pour nous faire comprendre que se charger de nos iniquités, ce n'est pas une bagatelle, ce n'est pas une petite affaire. Ce poids est insupportable. Ce poids a tué le Fils de Dieu. Nos iniquités sont trop pesantes. Elles ont causé sa mort. Le septième et dernier passage que j'aimerais évoquer dans Ésaïe 53 se trouve au verset 12 où il est dit « C'est pourquoi il lui donnera sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Puisqu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Dans ce passage, il est dit ici, « parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. » Jésus explique que sa mort n'est pas un meurtre, c'est un sacrifice. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jésus dit « le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Jésus donne sa vie, c'est un don. Ce que Jésus fait, il n'était pas obligé de le faire, il a choisi de le faire parce que notre vie est plus importante à ses yeux encore que la sienne. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit « personne ne me la prend, je la donne ». Les passages que nous voyons dans Ésaïe 53 soulignent une notion essentielle, à savoir que ce que Jésus fait, il le fait à notre place. Jésus est notre substitut. Jésus meurt à notre place. Et la deuxième chose que l'on apprend, c'est que ce que Jésus fait, c'est un cadeau. Ça nous est donné, ça nous est offert. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour le mériter. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Il nous le donne. C'est la raison pour laquelle Jésus essaye de nous faire comprendre que, en percevant l'importance capitale de ce que son sacrifice signifie, nous serons irrésistiblement attirés à lui et invité à nous engager envers lui, comme lui s'est engagé envers nous. Participer à la Sainte Cène, c'est notre manière aujourd'hui de lui dire que nous sommes prêts à nous engager envers lui, à nouveau, malgré nos chutes et nos faiblesses. Mais participer à la Sainte Cène, manger ce pain et boire ce jus de raisin, c'est notre manière aujourd'hui de lui dire que nous acceptons qu'il soit notre sauveur et qu'il porte notre culpabilité pour de vrai, alors que nous n'en portons que les symboles de son sacrifice pour avoir la vie. Ne voulez-vous pas venir à lui pour avoir la vie ?